L'internement des Tziganes. Le témoignage de Georgette Mess. Sous la conduite de Madame Nadia Amoumi, la principale, le collège Henri Berger de Fontaine-Française participe pour la deuxième année au projet innovant de l'éducation nationale, les routes mémorielles. Les élèves ont déjà enregistré deux podcasts avec Radio Shalom Bourgogne consacrés à la route des Tziganes en 2025 et en 2026. Avec la professeure d'histoire-géographie Émilie Paprin et la professeure documentaliste Anne-Laure Philippe, un groupe d'élèves a enregistré un nouveau podcast pour finaliser leurs travaux relatifs à l'internement des Tziganes durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont mis en onde le témoignage de Madame Georgette Mess, recueilli par leur professeur en 2008. Madame Mess est décédée à 85 ans en 2018. Georgette avait 8 ans quand elle a été internée avec ses parents au camp de Molloy fin 1941. Ils ont été ensuite transférés au camp de Saint-Maurice aux Riches-Hommes dans l'Yonne. Elle raconte cette parenthèse particulière, difficile, de sa vie et de celle de sa famille. Ce camp ne sera fermé que le 17 novembre 1945. 180 Tziganes y ont été internés entre 1939 et 1945. Les élèves sont Noémie Baudouin, Thaïs Bohar, Justine Chevaux, Mathéis Conaposé, Gabriel Durand, Gabriel Queneau, Mélissandre Pi. Ils dédient leur travail à Georgette Mess.
Préparez vos affaires et en vitesse, ils ont dit les gendarmes. D'après maman, on est déjà en mars. C'est pour ça qu'il fait si froid. Cette fois-ci, les gendarmes nous ont dit qu'on ne peut pas emmener notre roulotte avec nous, et qu'il faut qu'on la laisse sur place ici, à Molloy, et qu'on la récupérera plus tard. J'ai demandé à maman de me dire quand c'est plus tard, mais elle n'a rien répondu. Papa a demandé tout à l'heure aux gendarmes l'autorisation de la déplacer jusqu'à une grange dans le village. Je suis très triste, c'est notre maison.
J'ai peur, maman. Elle me serra la main très fort. On pourra la récupérer quand, la roulotte ? Je me suis tournée vers elle et j'ai vu qu'elle pleurait. Je n'ai plus posé de questions. Il fallait que je sois courageuse.
On se dépêche donc de préparer et de rassembler nos affaires. De toute façon, on n'a pas grand-chose. Il y a 3 bus qui nous attendent. Je ne suis encore jamais montée dans un bus.
Dépêchez-vous, il faut partir maintenant. Avec papa, maman et mes frères et sœurs, on est montés dans le premier bus. Il fait froid, très froid. Certains de mes amis sont montés dans les 2 autres bus. Au moins, on quitte cette forêt lugubre, mais pour aller où ? Dis, maman, il faut prévenir mamie.
Mars 1942. Déjà, ça fait plus de 6 mois que nous sommes ici, dans ce camp de Molloy, au milieu de cette forêt de sapins qui m'effraie. Les gendarmes du camp nous ont dit qu'on allait nous transférer dans un autre camp, dans l'Yonne, je crois, à Saint-Maurice-de-Riches-Hommes.
Les bus ont démarré et j'ai été séparée de certains de mes camarades de jeu. Je suis très triste car au bout de 6 mois passés à Molloy, j'avais vraiment créé des liens d'amitié avec eux. Il y avait vraiment de la solidarité à Molloy. Je me souviens par exemple que ma mère donnait parfois de la nourriture rapportée par mon père à d'autres mamans qui n'en avaient pas assez pour nourrir leur famille.
Nous avons vraiment peur de partir car on ne sait pas où on va ni ce qui nous attend. En plus, comme nous n'avons jamais pu communiquer avec notre famille depuis notre arrivée à Molloy, nous ne savons même pas si elle sera avertie de notre départ pour Saint-Maurice. Et cela nous angoisse encore plus.
Le trajet en bus a duré quelques heures, je ne sais plus exactement. Je me souviens que lorsque nous sommes arrivés à Saint-Maurice, le camp m'a paru beaucoup plus grand qu'à Molloy. Je pense qu'il y avait plus d'une centaine de personnes dans le camp.
J'ai été très impressionnée de voir tout ce monde à notre arrivée. J'ai compté 9 baraquements, et je vis aussi des roulottes, dans lesquelles des familles vivaient. Ça m'a mis en colère, car on nous avait interdit d'emmener la nôtre. J'ai dit à maman que je trouvais ça injuste. Elle m'a dit que c'était comme ça.
Dans le camp, nous sommes surveillés par 3 gendarmes qui logent sur place et qui ne sont pas gentils du tout avec nous. Il y a aussi un directeur. En réalité, il y en a 2. Le premier marche avec les Allemands, c'est sûr. Il envoie tous les hommes travailler dans un autre camp et nous prive souvent de ravitaillement. Par exemple, tous les autres enfants ont droit à 2 crans de chocolat fourrés par jour. Eh bien, souvent, il ne nous en donne que 1, voire pas du tout. Pareil, il fait souvent couper le lait avec de l'eau.
Je crois qu'il a fini par être renvoyé, car je ne le vois plus et un autre monsieur est arrivé. Il est plus gentil et il a remis un peu d'ordre en faisant rentrer les hommes au camp. Quand nous sommes arrivés à Saint-Maurice, on nous a conduits directement vers de grands baquets pour nous laver. Puis, on nous a installés dans une des baraques. C'est en fait un grand dortoir. Pour avoir un peu plus d'intimité, maman a accroché des draps au mur.
Dehors, il fait toujours aussi froid. Ça ne change pas de Molloy. C'est un hiver très rude, avec certains jours plus d'un mètre de neige. Papa a dit que ça fait longtemps que l'on n'a pas vu ça, et moi, je me suis dit qu'il fallait que ça tombe sur nous. Mes mains sont pleines d'engelures. Ça fait mal, mais je ne me plains pas, car je ne veux pas embêter maman et papa. Et puis, je dois donner l'exemple aux plus petits de mes frères et sœurs. Heureusement pour nous, maman et papa ont réussi à emmener de Molloy nos lits de plumes. C'est maman qui les a cousus, et moi, je l'ai aidé à plumer les oies.
Contrairement à Molloy, le camp de Saint-Maurice est situé au milieu des champs. Les hommes travaillent aussi dans les bois alentour. D'autres travaillent dans les usines à Migène, par exemple. C'est le nom d'une grande ville, je crois. Parfois, mon père travaille dans des fermes près du camp et il continue la vannerie. Les gardiens le laissent vendre ses paniers et ceux que je continue de dresser avec maman, même si c'est dur de trouver du bel osier ici.
Pour cela, il faut demander un laissez-passer au directeur pour sortir du camp. Papa va tout seul à Saint-Maurice, les jours de marché. Aucun gendarme ne l'accompagne. En fait, j'ai l'impression que tout est basé sur la confiance. Mais on ne pense même pas à nous enfuir, pour aller où de toute façon. Il faut voir comment les gens nous dévisagent quand on sort du camp. Nous serions dénoncés tout de suite.
Ici, les conditions de vie sont rudes. Pour la nourriture, on a une cantine. Tous les jours, on a droit à deux repas et il faut se dépêcher pour être les premiers et avoir chacun notre part. À nouveau, des légumes avec des noms bizarres. Rutabaga, topinambour, et même des betteraves fourragères qu'on donne normalement aux lapins. Je le sais, j'en donnais aux lapins de mamie. Il y a aussi des pâtes, du riz et surtout des pommes de terre. Beaucoup de pommes de terre. La cuisine est faite à l'huile. C'est parfois immangeable tellement ça sent l'huile, mais on mange car on a faim. La faim, encore et toujours. J'en ai des crampes d'estomac. Heureusement que papa vend des paniers pour amener un peu de gibier.
Au niveau de l'hygiène, c'est un peu comme à Molloy. Il y a des douches, mais elles sont réservées aux gens malades. Ils sont tous regroupés dans une baraque qui sert d'infirmerie, afin d'éviter la contamination. Un de mes frères et moi avons attrapé la gale. L'infirmière nous a soignés avec de la pommade et des douches. Le médecin du village vient de temps en temps, ainsi qu'une sage-femme.
Il y a moins de solidarité qu'à Molloy. Les gens ne se parlent presque pas. La vie au camp est très monotone. Mon père part tous les matins travailler dans les bois et maman s'occupe de nous et continue de faire des paniers. Nous, les enfants, on va tous les jours à l'école. Elle est installée dans le camp. Je n'aime pas trop l'instituteur. Il dit qu'il veut nous faire rentrer dans le droit chemin, car d'après lui, on est mal élevé et indiscipliné.
Parfois, il nous emmène à l'extérieur du camp, dans les champs de pommes de terre, et on doit ramasser tous les doryphores et les mettre dans une petite boîte. Il nous dit qu'au moins, en faisant cela, on est utile. Maman, quand est-ce qu'on partira du camp pour retrouver notre roulotte ?
La famille de Georgette Metz fut transférée en mars 1942 au camp de Saint-Maurice, aux Riches-Hommes, dans l'Yonne. Les deux autres bus dont parle Georgette transporteront les autres internés jusqu'au camp d'internement de Peignet, en Haute-Marne, ou celui d'Arc et Senans dans le Jura. Le 6 mars 1945, la mère de Georgette Metz accouche dans le camp d'un petit garçon déclaré au registre d'état civil du village de Saint-Maurice. La famille obtient un mois plus tard un laissez-passer pour le faire baptiser par le prêtre de la paroisse.
Ce nouvel internement durera jusqu'en juillet 1945, date de la libération de la famille. En effet, la grand-mère avait trouvé un emploi de vacher au père de Georgette, ce qui conditionna leur sortie du camp. Repassant par Molloy, ils essayèrent de récupérer leur roulotte, mais apprirent qu'elle avait été entre-temps détruite et transformée en cage à lapins. La famille rentra donc chez elle, à pied, en Saône-et-Loire à Bonencontre, où le père exerça le métier de vacher et la mère continua la vannerie et le rempaillage de chaises. Quant à Georgette, elle se mariera à 23 ans et s'installa à Jambles, toujours en Saône-et-Loire. Avec son mari, ils eurent 10 enfants et 32 petits-enfants.
Le 16 juillet 2005, accompagnée de l'une de ses petites filles, elle inaugura une stèle dans la forêt de Molloy à l'emplacement des baraques du camp. Elle ne retourna par contre jamais au camp de Saint-Maurice, dont il ne reste aujourd'hui plus rien si ce n'est le bâtiment de l'ancienne gare qui abrita les bureaux du directeur du camp. Sa dissolution sera ordonnée le 17 novembre 1945, bien après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le 20 septembre 2025, soit près de 80 ans après sa fermeture, une stèle fut inaugurée à l'entrée du camp de Saint-Maurice aux Riches-Hommes, en hommage auprès de 186 gagnes qui furent internés entre 1939 et 1945. Georgette Mess, quant à elle, est décédée le 14 février 2018, à l'âge de 85 ans. Notre travail lui est dédié.
L'internement des Tziganes. Le témoignage de Georgette Mess. Sous la conduite de Madame Nadia Amoumi, la principale, le collège Henri Berger de Fontaine-Française participe pour la deuxième année au projet innovant de l'éducation nationale, les routes mémorielles. Les élèves ont déjà enregistré deux podcasts avec Radio Shalom Bourgogne consacrés à la route des Tziganes en 2025 et en 2026. Avec la professeure d'histoire-géographie Émilie Paprin et la professeure documentaliste Anne-Laure Philippe, un groupe d'élèves a enregistré un nouveau podcast pour finaliser leurs travaux relatifs à l'internement des Tziganes durant la Seconde Guerre mondiale. Ils ont mis en ondes le témoignage de Madame Georgette Mess, recueilli par leur professeur en 2008. Madame Mess est décédée à 85 ans en 2018. Georgette avait 8 ans quand elle a été internée avec ses parents au camp de Molois fin 1941. Ils ont été ensuite transférés au camp de Saint-Maurice aux Richesommes dans l'Yonne. Elle raconte cette parenthèse particulière, difficile, de sa vie et de celle de sa famille. Ce camp ne sera fermé que le 17 novembre 1945. 180 Tziganes y ont été internés entre 1939 et 1945. Les élèves sont Noémie Baudouin, Thaïs Bohar, Justine Chevaux, Mathéis Conaposé, Gabriel Durand, Gabriel Queneau, Mélissandre Pie. Ils dédient leur travail à Georgette Mess.